Actu SF, les podcasts.
Alors bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être aussi nombreuses et nombreux pour cette conférence sur le nouvel art d'aimer. Alors vaste sujet, et je pensais que ce serait bien pour poser peut-être les choses de relire. Je vais relire à haute voix l'intitulé avant de présenter nos invités. Alors, le nouvel art d'aimer, dans le sillon creusé par les gender studies, les orientations sexuelles non classiques se sont dévoilées. Aromantique, polyamoureux, asexuel, c'est mille et une façons d'aimer du XXIe siècle qu'il ne faut pas confondre avec l'identité de genre, d'Ovid à John Varley, après la libération sexuelle de 68 et la parenthèse enchantée, état des lieux. Voilà. Donc, pour parler de ce vaste sujet, eh bien, j'ai une équipe de choc. Alors, pour commencer, Mélanie Fazi, qui est traductrice, entre autres, qui traduit Brian Sanderson, Graham Joyce, Lisa Tuttle, et vous venez de sortir Nous qui n'existions pas chez Dystopia, que je recommande chaudement. Vous écrivez des nouvelles. À vos côtés, Catherine Dufour, romancière, qui vient de sortir Entend la nuit, un excellent roman fantastique ou de fantasy urbaine chez La Talente, que je recommande également, ainsi que votre dystopie, Le goût de l'immortalité. Et à mes côtés, Rachel Bauchet, élue à la ville de Nantes, à la francophonie, présidente de la Cité des Congrès, et vous intervenez aujourd'hui en tant que psychiatre. Voilà. Et moi, je suis l'œil de Chéri, et je suis journaliste pour le magazine Le Point et Le Point Pop, et c'est le petit instant de publicité. Je vous recommande ce magnifique hors-série spécial science-fiction à la librairie. Voilà. Passons, on va pouvoir passer. Alors, le nouvel art d'aimer. Est-ce que donc on a évoqué de nouveaux termes aromantiques, polyamoureux, asexuels, mais est-ce que c'est une nouvelle façon d'aimer? Est-ce que ça n'existait pas avant, Mélanie, justement? Il y a le micro juste en face. Vas-y, tu peux.
Je ne suis peut-être pas la plus habilitée pour entamer sur cet aspect-là du terme. Parce que, enfin, ma réponse, en gros, ce serait non, je ne pense pas. Je pense pas. En l'occurrence, on parle de choses en partie qui sont des identités. Alors après, ça nous amènera ailleurs. Il y a un certain nombre asexuels, aromantiques, et plus la partie dont je peux parler. Moi, il me semble que ce sont des identités, que ça n'a pas grand-chose avec une question d'art d'aimer, justement. Donc après, on a une question de définition vraiment précisément de ça. Mais ma réponse, en gros, serait non, je ne pense vraiment pas, en fait.
Catherine Dufour.
Alors moi, du coup, j'ai fait quelques recherches pour savoir si tout ça est neuf. Alors non, je pense que ça date d'avant la date de naissance de la plupart des gens qui sont ici. Hein. Par exemple, le Centre des études féministes, il date de 74. La femme mystifiée de Betty Friedan, c'est quand même 63. Troubles dans le genre, Judith Butler, c'est 1990. Donc tous les gens de 28 ans levaient le doigt. Quelque chose comme par exemple cisgenre, les gens qui sont en ligne avec leur genre assigné est égal à leur genre ressenti. Ça, c'est un terme qui date de 1994, qui a priori la première fois qu'on l'a entendu, en fait on l'a écrit, c'est sur un forum nommé Usenet. Les moins de 20 ans ne peuvent pas comprendre. C'était dans le forum All Transgender. Et bon, on se dispute un peu sur qui a utilisé le terme cisgenre en premier. C'est Dana Leland de Fauss, mais il y en a d'autres qui disent que c'est bien Judith Butler. Et il faut savoir quand même qu'il y a eu une grosse dispute, justement, sur un changement de genre qui date de, a priori 480 avant Jésus-Christ. C'est un devin nommé, enfin ça a été rapporté par un Gus qui s'appelle Phérécide, qui vivait en 480 avant Jésus-Christ, mais il parle de quelqu'un nommé Tirésias, qui est un personnage mythologique, et qui a passé 10 ans de sa vie en homme et 10 ans de sa vie en femme. Et après, quand Zeus lui a posé la question en lui disant c'est quoi le mieux au niveau orgasme sexuel, Il a répondu, oh ben, c'est une femme, c'est 10 fois mieux. Et là, vexée, la femme de Zeus, Hera, qui estimait que là, il venait de traiter toutes les femmes de grosses salopes, l'a rendue aveugle. C'est pour ça que le devin Tirésias, c'est Ulysse va voir aux enfers, est aveugle. À cause de ça, il a osé révéler ce qu'était la différence de genre aux yeux du monde. Donc, autant dire que non, je pense que ces nouveaux arts d'aimer n'ont absolument rien de nouveau dans les questions que tout le monde se pose depuis des millénaires.
Rachel.
Bien, bonjour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 50 ans, je dirais? Est-ce qu'il y a de nouvelles arts d'aimer, de nouvelles pratiques? Je dirais que souvent, on entend dans les couples ou chez les sujets, c'est « je veux vivre ma vie, j'ai besoin d'oxygène ». J'ai besoin de changer d'air. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la vie avec l'autre, quand on est dans un couple, n'est plus la vie pour l'autre. C'est là où, en fait, on voit que la relation, en tout cas, quand on parle de la relation d'aimer, on aime quelqu'un. Hein, donc, la relation dans un couple n'est plus celle qu'elle était, c'est-à-dire qu'il y a la remise en cause des modèles traditionnels. Aujourd'hui, la tendance de fond, c'est quoi? C'est l'affirmation de soi, avec quand même le sentiment d'être amoureux. C'est-à-dire, finalement, il y a une belle expression qui dit « être libre ensemble ». Être libre ensemble, ce qui permet de voir maintenant, quand on est en couple, c'est-à-dire une certaine déromantisation, c'est pas une aromantisation, mais une déromantisation, avait au profit de deux individualités. Alors, les valeurs actuelles, c'est pour ça qu'on revient sur la question que vous posez, c'est l'individualisation, oui, ça entraîne un changement hein, dans la manière d'aimer. On est plus individualiste, on est plus en quête d'une certaine autonomie, d'une reconnaissance d'une sexualité qui est clairement affirmée, qui n'est plus cachée d'ailleurs. C'est ça la différence. Ça, c'est les bases d'une évolution des mœurs. Et aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est comment rester libre et en même temps être amoureux. À partir du moment où le sujet, il est amoureux aussi de sa liberté, c'est-à-dire il est moins disposé à perdre sa liberté, mais il veut bien rester amoureux quand même. Et donc, on est dans ce mouvement-là, en clair, je veux dire, on assiste à une sorte de, ce que j'appellerais une récurrence de vie seule, en même temps d'avoir une vie amoureuse conjugale. Et je dirais que les chiffres, quelques chiffres pour vous dire, c'est que le nombre de divorces stagne, il n'y a pas plus. Le nombre de célibats augmente et le nombre, disons, en 15 ans, de couples non mariés par rapport aux couples mariés aussi augmente. Donc, on voit bien quand même que s'installe un certain individualisme dans cette notion de couple. Voilà. Alors, bon, avec ça, dans ce nouvel art d'aimer, je dirais que ce qui arrive forcément, c'est une certaine dédramatisation, alors aussi bien, on va dire, d'une séparation, une dédramatisation des relations extra-conjugales et une implosion même d'une structure traditionnelle familiale. Et ça, c'est pas sans conséquence sur l'émotivité, sur l'émotion ou la passion d'une relation. Hein, et donc, je dirais, juste pour conclure cette première partie, qu'à l'amour fusionnel, ou en fait que l'un vivait pour l'autre, on arrive à un amour fissionnel. C'est une expression que j'emprunte à Serge Chaumier. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire dans une relation à deux, il y a l'irruption du tiers ou l'irruption de possibles qui donne d'autres horizons dans une relation de couple et même qui alimente le couple, ce qui veut dire aussi que ça donne tout un champ des possibles au niveau des pratiques d'aimer et qui a bien entendu un retentissement sur la façon d'aimer, c'est-à-dire sur l'émotion d'aimer.
Catherine Dufour, une réaction sur ce qui a été dit?
Oh ben diable. Alors, en ce qui concerne l'autonomie croissante, oui, peut-être. En ce qui concerne l'individualisme, en tout cas moi, à l'échelle de mon existence, ça fait 50 ans, je ne trouve pas du tout. Je trouve que c'est l'inverse. L'individualisme, j'ai vécu ça quand j'avais 20 ans dans les années 80. C'était les années youpi, vous voyez. Donc, il n'y avait que l'argent. Et globalement, tout ce qui était amour était ridicule. Mais tout ce qui était amour au sens large, c'est-à-dire par exemple aussi l'amour de notre environnement, confinement. Je me souviens qu'en voiture, quand je ne savais pas quoi faire de mes papiers de bonbons, mes parents ils me disaient bah, « ouvre la fenêtre » et puis on balançait ça dans la campagne. Il y avait une conscience de l'autre qui était proche du zéro absolu. Et je trouve que les générations suivantes, au contraire, sont beaucoup moins individualistes. Elles ont beaucoup plus le souci de l'autre, mais l'autre au sens large, c'est-à-dire l'arbre, l'animal et aussi notre prochain. Donc il y a peut-être une montée d'autonomie, ça j'espère bien. Mais au niveau individualisme, on ne fera jamais pire que ce qu'il y avait il y a 30 ans. Donc je trouve que les générations suivantes sont beaucoup plus valables humainement. Mmh. Mais c'est que mon opinion.
Mélanie Fazi.
Moi, je veux juste rebondir sur la partie où on disait l'augmentation du, l'augmentation du célibat notamment, et c'est quelque chose que je constate effectivement. Et en même temps, il reste un stigmate énorme, particulièrement pour les femmes. Et là, c'est plus le cas dont je peux parler en tant que personne qui ne fonctionne pas en fait en couple et qui n'a pas de vie amoureuse et sexuelle. À quel point on m'a fait, moi qui a toujours été raccord avec ça, on me l'a fait peser en fait. Et à quel point on nous imprime que, bon, il y a comme l'image de la vieille fille, il y a l'image, il y a tout ce truc-là qui reste. Et c'est étonnant à quel point on peut avoir par rapport à aux générations d'avant beaucoup plus l'idée qu'on n'est pas figé dans cette image du couple pour la vie. Et à quel point, en même temps, on n'en est pas sorti tant que ça dans la représentation au sens large. Moi, c'est vraiment quelque chose que mon expérience m'a vraiment ancré, martelé. Et sur ce point-là, on avance et en même temps, il y a la parole se libère vraiment là-dessus depuis quelques années, mais ça reste compliqué.
Oui, en fait, dans son livre, Mélanie, elle explique ça très bien. C'est-à-dire que quand elle croise une femme qui est célibataire, elle dit « Oh, tiens, une femme qui se dérouille toute seule, qui est une bonne compagnie d'elle-même, qui fait ses choix, c'est super. » Et elle se rend compte que non, c'est pas l'opinion générale. L'opinion générale, c'est « Oh, la pauvre fille
Pourquoi délaissée. Elle est toute seule ?»
Voilà.
Pourquoi est-ce qu'elle est toute seule? Il y a une raison, forcément.
Il y a un excellent bouquin, ou de celui de Mélanie, que vous pouvez lire là-dessus, si ça vous intéresse. C'est « Sorcière » de Mona Chollet, où elle explique justement comment un homme, ça vieillit bien, et qu'une femme, ça vieillit mal, et c'est toujours moche. Et elle explique d'où ça vient. Ça vient de la chasse aux sorcières, qui était une espèce de grosse montée de misogynie à partir du... globalement, à partir de la réforme, quoi, 1500. Il est super, ce livre, pour expliquer ça. Et donc, l'image de la femme seule, c'est la sorcière. Alors, c'est même pas qu'elle est imbaisable, c'est carrément elle est inregardable. Et son image actuelle, c'est plutôt la vieille dame à chat. Voilà. Et c'est vrai que là, moi, je rejoins Mélanie Fazi, parce que moi, mon ambition personnelle, c'est de devenir une vieille dame à chat. Je ne rêve que de ça, quoi. Et je sais pas, moi, d'être une vieille dame indigne, j'ai déjà commencé maintenant à pincer les fesses des jeunes gens dans le métro. Alors, j'ai arrêté maintenant depuis MeToo. Parce que je m'aperçois que c'est une agression sexuelle, mais j'ai fait une ou deux fois, et c'est super marrant, parce que les mecs, ils sont pas à l'habitude, donc ils se retournent. Voilà. Donc moi, c'est mon ambition. Mais je m'aperçois qu'en fait, le regard qu'on va porter sur moi quand je serai là toute seule avec tous mes chats sera extrêmement méprisant. Je pense que j'en aurai rien à faire, parce que je le remarquerai même pas, parce que je suis pas mal myope. Mais je rejoins effectivement Mélanie Fazi et Mona Chollet dans l'importance du poids du regard des autres.
Rachel Bauchet, vous voyez ça aussi, l'importance du poids dans le regard des autres, chez les gens?
Bien sûr, parce que c'est la question de l'amour, le regard. Le regard, c'est le premier regard, disons. Alors vous savez que je suis là en tant que psychiatre, donc bon, je vous dis un petit peu ce que j'en sais. Hein. C'est le premier regard de la mère sur l'enfant, donc le regard est essentiel, et c'est pour ça l'amour est essentiel pour grandir, hein, pour la constitution de son identité et pour le sentiment d'estime de soi. C'est-à-dire, justement, ce que vous évoquez, c'est le sentiment d'estime de soi, c'est-à-dire le regard, c'est-à-dire comment vous estimez, et ce sentiment-là est très important, non seulement pour être aimable, mais aussi pour être aimé. Et donc, moi, je voudrais un peu élargir en disant, finalement, tout le monde, je dirais, celui qui dit non, c'est pas vrai, tout le monde a fait dans sa vie l'expérience de la souffrance amoureuse. Ça existe, c'est inévitable, et je dirais que probablement, c'est parce que l'amour fait mal que quelquefois, on s'en méfie et on arrive sur d'autres pratiques, justement, des histoires d'amour, de... Je ne sais plus que les mots là, que vous avez utilisés, c'est aromantique ou asexuel. Bon. Alors, disons, l'amour fait mal. Moi, j'en bois tous les jours dans mes consultations, que ce soit les troubles du sommeil, les troubles alimentaires, que ce soit des moments dépressifs ou des moments d'angoisse. C'est toujours à l'origine, justement, soit parce qu'on n'est pas regardé, soit parce qu'on est... On a été trahi, soit parce qu'on a un deuil, ou soit parce qu'il y a une crise dans le couple. Et donc, on voit bien comment, l'amour est constitutif aussi de soi, et c'est un fondamental. Et donc, aujourd'hui, c'est un fondamental pour se construire. Et là, je dirais qu'aujourd'hui, dans les éléments d'actualité, de la relation amoureuse, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des choses qui changent, parce que c'est quand même ça. Ce qui change quand même, c'est le fait de choisir. C'est-à-dire le fait de choisir et d'assumer ses choix. Alors avant, quand même, il y a 50 ans, il y avait moins de choix, puisqu'on était condamné, je dirais, à choisir alors soit des mariages arrangés, soit des mariages dans des lignées de familles, de religions, de statuts. Donc là, on a cette liberté. Et dans ces libertés de tous les possibles, en fait, ça fragilise l'individu, parce que c'est compliqué aussi d'être soumis qu'à son seul choix et de choisir qu'en fonction, je dirais, de son affectivité. Ce qui est difficile aussi aujourd'hui, c'est la tyrannie des codes, c'est-à-dire, notamment, je pense à la beauté, c'est-à-dire qu'il y a comme ça des codes qui reviennent très actuels et qui nous facilitent pas la vie. Il y a aussi le net, aussi le virtuel, c'est-à-dire le virtuel n'est pas le réel, c'est-à-dire que bon, on peut avoir des relations avec des gens sur Internet, mais ça ne sera pas des relations affectives authentiques. Et puis, je ne parle pas de la marchandisation à outrance qu'entraîne aussi Internet et qui est bien sûr très délétère pour les individus. Donc, ce que je dirais, c'est que dans ces nouvelles manières d'aimer, dans tous ces champs possibles pour l'individu, ça entraîne quand même une certaine fragilité émotionnelle qui fait qu'on peut se retrancher devant ou des amours pluriels qui sont moins dangereuses parce qu'il y a moins d'engagement, ou une phobie de l'engagement, c'est-à-dire finalement on s'engage moins parce que ça fait mal aussi de s'engager, surtout ça fait mal de se perdre. Et ce que je dirais, c'est que tout le monde, on cherche tout. Au niveau de la vie amoureuse, on se retrouve confronté toujours, et ça n'a pas changé. Au niveau de la vie amoureuse, toujours au niveau des mêmes affres, c'est toujours la peur d'être abandonné, l'angoisse d'être abandonné. Alors, au début, c'est au niveau de sa mère, mais après, c'est au niveau de son amoureux qui ne sont que des substituts maternels. La peur d'être abandonné, la peur d'être trahi, la peur de ne pas être connu et la peur d'être rejeté. Et c'est pour ça qu'on a des nouvelles manières d'aimer, mais on se retrouve quand même sur les mêmes fondamentaux, c'est-à-dire on a besoin de ces amours, on a besoin de ce regard pour se construire et pour se construire dans son identité.
Alors, je vais laisser la parole à Mélanie.
Je voulais apporter une nuance, en fait, parce qu'on parlait... En fait, on parle de différentes choses qu'on a un petit peu amalgamées. Il y a la question des manières de vivre, de manières de vivre le couple. Et je voulais rebondir sur la question du terme asexualité, aromantisme, justement, qui ne sont pas des manières d'aimer dans le sens où ce n'est pas dire, à un moment donné, moi, je vais fonctionner en n'étant pas en couple, ou moi, je veux plus tomber amoureux. Et moi, je tique sur cette idée que ce soit en réaction à la peur de souffrir ou autre. C'est-à-dire, on est quelqu'un qui n'a pas de pulsion sexuelle ou qui n'a pas de pulsion amoureuse. Et justement, la peur du regard des autres nous pousse à essayer de faire comme les autres et essayer de rentrer dans le couple et essayer d'avoir une vie sexuelle pour ne pas être considéré comme frigide ou coincé ou autre. Essayer de faire comme tout. Et ça entraîne une souffrance parce qu'en réalité, on ne peut pas fonctionner comme ça. C'est pas, j'apporte une nuance, c'est pas une manière d'aimer dans le sens, c'est pas un refus du couple, c'est pas un refus d'une vie sexuelle ou autre, c'est simplement, on n'est pas programmé comme ça en fait. Pour moi, je nuance vraiment
vous,
ça.
Vous, Mélanie, vous l'avez écrit, peut-être vous pouvez expliquer dans un blog que c'était difficile de vivre sans étiquette, ou en tout cas... Comment faire ?
En tout cas, pas. Alors, je vais essayer de résumer rapidement. C'est un sujet sur lequel j'ai pris la parole tardivement parce que moi-même, j'ai mis du temps à comprendre parce qu'on a cette pression monstrueuse de le couple, c'est comme ça, l'amour, c'est comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui n'a jamais, qui a toujours envisagé de vivre seul parce que ça me paraît naturel. C'est pas que je refuse la vie en couple, je ne comprends même pas le concept. C'est-à-dire, si toute ma vie, j'avais pas vu les gens en couple autour de moi, l'idée que ce soit possible ne m'aurait jamais traversée. Je ne comprends même pas comment ça marche. Et ce qui en soi n'était pas un souci, si ce n'est qu'effectivement, toute ma vie, à l'adolescence, on dit, mais tiens, tu ne regardes pas les garçons ou même les filles, tiens, tu n'es pas en couple, tu es sûr, tu ne veux pas essayer, tu es vraiment sûr de tout. Enfin, on nous met une pression de dingue avec ça, qui fait qu'on finit par se dire, j'ai un problème, je suis une anomalie, etc. On se pourrit la vie avec ça. Et très, très tardivement, j'ai compris que ce n'était pas un problème. Et je me suis aperçue que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens fonctionnent comme ça, n'osent pas le dire parce qu'on nous met vraiment la pression avec le couple. Et depuis que j'ai publié, j'ai fait un billet de blog, beaucoup de retentissement qui est devenu un livre. Encore hier, deux personnes sont venues en dédicace me dire « Je fonctionne comme vous, merci de l'avoir écrit parce que jamais je l'avais entendu. » Et là, je me dis, on nous met vraiment une pression de dingue. Et il y a, pour ça, moi, au départ, je tiquais sur l'intitulé nouveau par rapport à ces trucs-là. Parce qu'en fait, ce sont des choses qui existent. C'est des choses qui sont tues. Comme on ne sait pas qu'elles existent, on ne se les autorise pas et on se renie soi-même, en fait. Et je suis en train... Le nombre de personnes qui viennent m'apporter des témoignages me dit que, ouais, il y a quelque chose à ce niveau-là.
Catherine.
Oui, moi, je voulais revenir là-dessus, sur en fait ce qu'on appelle la fierté LGBTQIA+, donc lesbienne, gay, bi, trans, queer, intersexe, et, alors aromantique, altersexuel et les autres. C'est justement que fut une époque en où vous étiez gay, par exemple, la société ne voulait pas de vous, elle vous mettait sur un bûcher. Alors, les mœurs ont un petit peu évolué, donc maintenant, au lieu de considérer toutes ces personnes-là comme des gibiers de potence ou de bûcher, maintenant, on les considère comme malades et on veut les soigner pour les faire rentrer dans les cases. Et justement, la fierté LGBTQI et plus, c'est de dire non, on n'est pas malade, on est comme ça. Et voilà, enfin, moi, je connais un nombre considérable de gays et de lesbiennes qui sont gays, qui sont lesbiennes, et ce n'est pas parce qu'ils ont des problèmes relationnels de vision du père ou de la mère, ou en tout cas pas plus que les hétéros. Comme par exemple, je connais des tas de femmes qui ont avorté et qui non, ne sont pas traumatisées et qui s'en remettent très bien, merci. Et cette façon de psychiatriser tout ce qui n'est pas strictement dans la norme, c'est justement ce contre quoi luttent les fiertés LGBTQI+. Parce qu'ils se mettent tous ensemble pour se reconnaître, pour reconnaître qu'ils ne sont pas anormaux, ils sont une autre forme de norme et... Ensemble, ils arrivent à recréer d'autres liens que ceux que veut nous imposer la société. Et je trouve ça très important de faire bien la différence et de ne pas vouloir trouver des problèmes psychiques, psychiatriques ou psychologiques derrière toute personne qui n'est pas strictement dans la norme hétérosexuelle cis.
Oui, alors moi, je suis tout à fait d'accord. Hein. Disons, ce que j'ai dit, je parlais de la psychologie normale de l'individu et de ses peurs primordiales. Hein. Bien entendu, il n'est pas question du tout de dire... Par exemple, je vais dire clairement, les maladies d'amour ne sont pas des maladies psychiatriques. C'est-à-dire la souffrance amoureuse, c'est une souffrance habituelle. Ou la souffrance liée aux autres, c'est une souffrance aussi habituelle, c'est pas une maladie. Hein. Mmh. On est tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Et actuellement, justement, ce qui est problématique, donc moi, ça m'arrive, j'ai une unité d'hospitalisation où il y a des jeunes, et dernièrement, il y a eu à deux ou trois reprises des jeunes qui étaient justement en transition sexuelle. La question pour nous, en tant que médecins, c'est bien de les aider actuellement à assumer leur position, c'est de ne pas être trop pris dans la mouvance sociétale qui va leur donner ou un jugement ou, disons, une culpabilité de ce qui se passe. Hein, c'est d'essayer, justement, de les aider dans leur chemin. Ça n'empêche pas que, quand même, aujourd'hui, on assiste... Alors, effectivement, c'est ça, l'évolution. On assiste à un élargissement des possibles et, je dirais, ce que j'appelle un dépassement... un dépassement d'enfermement dans des catégories. C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis qu'il y a une ouverture des possibles, on arrive à dépasser les catégories et à ce qu'on pourrait dire une porosité des frontières pures. Avant, il y avait les hommes et les femmes. Aujourd'hui, on a une porosité des frontières entre, on va dire, les hommes et les femmes qui gagne même les orientations sexuelles et qui nous permet d'avoir d'autres possibles, c'est-à-dire, bon, effectivement, LGBTI, disons, comme il y en a pas mal, j'ai peur d'en oublier. Et je pense que c'est ça qui est important. Là où on en est aujourd'hui, c'est qu'on est à ce dépassement d'enfermement. On est à ce refus d'étiquetage qui permet d'élargir les horizons et qui vont permettre probablement d'entraîner d'autres types de relations, de relations amoureuses. Et qui vont amener sur d'autres éléments qu'on ne connaît pas. Moi, je ne sais pas. Alors, on verra, peut-être qu'on dira dans un second temps, finalement, ce n'était pas si différent que ça. C'est pour ça que j'ai dit, on arrive sur les mêmes fondamentaux. Mais on a quand même, c'est pour ça que j'ai dit, on a quand même ces valeurs de la modernité qui sont, même si c'est vrai, je suis d'accord avec vous, sur l'individualisme forcené d'il y a 30 ans, on assiste à un petit recul. Mais il y a quand même une recherche... d'individualisation, d'autonomie. Et avec ça, ça veut dire quoi ? C'est la recherche aussi de soi-même, la recherche aussi de plaisir, la recherche aussi de cette sexualité et de l'affirmation de sa sexualité. D'accord ?
On parlait du numérique tout à l'heure. Mélanie, est-ce que le web et le numérique n'a pas aidé dans la parole pour s'exprimer, pour se rencontrer, se retrouver ?
Je reviens plus sur le... une personne que je connais, dont je suis très proche et qui a découvert son homosexualité dans les années 90, m'a dit un jour, c'était à l'époque, on savait que ça existait, mais on savait qu'il y avait d'autres personnes comme nous, on ne savait pas trop. Et il se trouve que c'est une rencontre tout à fait par hasard qui lui a permis de rencontrer d'autres personnes dans son cas, qui l'ont amené vers une asso, qui l'ont amené vers ça. C'était une époque avant Internet. Et je sais que maintenant, on a cette possibilité, quand on se pose ces questions-là, à condition qu'on sache justement que certains cas de figure existent, on peut faire une recherche Google, surtout pour peu qu'on soit dans cette thématique de la honte, le secret, pas forcément vouloir que ça se sache au début, aller chercher, est-ce qu'il y a d'autres personnes, est-ce qu'il y a des définitions, et tomber sur des mots qui nous disent qu'effectivement, il y a d'autres personnes qui ont vécu les mêmes choses, que simplement les choses portent un nom. Quelqu'un me disait l'autre jour, si une étiquette existe, ça veut dire qu'on est au moins deux. C'était une boutade, mais en fait, pas tant que ça. C'est bon, si un nom existe, si un nom a été posé sur ce concept ou sur c'est qu'à un moment donné, il a fallu donner ce nom parce qu'il y avait plusieurs personnes. Et je sais que Internet, moi je parlais des retours que j'ai sur ce livre, c'est par Internet que ça a transité ce truc-là et ça a beaucoup circulé. Et ça a été déposé sur des forums sur la sexualité notamment, où des gens peuvent tomber dessus s'ils cherchent des choses là-dessus. Et je repense à ce que me disait cette personne sur les années 90, on était paumés, je crois que je suis attirée par les femmes, je suis pas sûre. Je sais qu'il y a d'autres personnes comme moi, mais où est-ce que je vais les chercher ? Et je pense qu'Internet, ça a été une révolution pour ça, oui.
Catherine Dufour.
Non, je suis d'accord.
C'est ça. On va peut-être aborder la science-fiction. Et comment la science-fiction traite ces questions ? Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on peut souvent se rendre compte que la bande dessinée, le cinéma vont utiliser les questions de... Enfin, vont mettre en scène des robots, des hologrammes, des intelligences artificielles. On peut penser à des films comme Ghost in the Shell, Minority Report, ou la série Black Mirror ou Her, de Spike Jonze. Comment, Catherine Dufour, vous voyez là... Ou est-ce que vous connaissez des ouvrages qui étaient révolutionnaires au niveau science-fiction ? Comment la science-fiction traite de ces questions liées aux façons d'aimer, à la sexualité ?
Alors, la SF a longtemps été super puritaine. La SF, c'est quand même des boulons, des vaisseaux spatiaux. Et pendant longtemps, il n'y a pas eu tellement d'art d'aimer, déjà parce qu'il n'y avait pas tellement de femmes. Et puis tout ça, c'était du sentimentalisme. Et la grosse révolution, ça a été les amants à étrangers. Ça doit être dans les années 50, où là, on a la rencontre du quatrième type, c'est-à-dire un homme qui rencontre une femme qui est une extraterrestre, et il s'aime. Et le seul problème, c'est qu'elle picole comme un trou. Et il va essayer de le faire arrêter de boire, et malheureusement, il se trouve que pour son espèce, la seule pilule qui existe, c'est l'alcool. Voilà. Donc, si vous arrêtez de boire, et pouf, vous tombez enceinte. Sauf que dans cette espèce, quand on tombe enceinte, on fait 200 œufs. Qui pose un problème après pour l'éducation. Donc je vous spoil pas la fin, vous avez assez dit. Mais alors ça a été un scandale abominable qu'un homme couche avec une créature. Voilà, c'était considéré comme de la zoophilie. Mais il est beau, enfin ce livre même à 70 ans de distance, il est encore vachement bien. Après quoi, l'auteur a tourné un peu vieux con, mais enfin, c'est une autre histoire. Et alors, depuis, on peut dire que la science-fiction, c'est drôlement détendu. Vous prenez Tanit Lee, c'est dans Ne mord pas le soleil, dans Dit de la Terre plate. C'est peut-être plus de la fantasy, mais non, Ne mord pas le soleil, c'est de la SF. C'est quand même des gens qui changent. Alors, c'est des humains, mais on arrive à leur faire... Ils ont une plasticité corporelle absolue. Alors, bon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils couchent ensemble, mais en plus, quelquefois, ils sont couverts de tentacules. Bon. Qu'est-ce qu'il y a comme film, là, comme rencontre du quatrième type ? Il y a eu La forme de l'eau. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et c'est assez beau, quoi. Il y a un autre... Cristal qui songe. Ouais. Il y a non plus R, oui, enfin tout le monde connaît R, et effectivement c'est vraiment ça. Alors il y a Quelquefois même, ce qui est amusant en science-fiction, c'est que vous avez... La science-fiction joue beaucoup sur les dictatures et comment on les résout ou pas, d'ailleurs. Alors, par exemple, 1984, c'est l'archétype, mais il n'y a pas que ça. Et du coup, la question, en tout cas, de la sexualité est toujours abordée et résolue par les dictatures, soit... on a le droit à rien du tout, soit l'inverse. Dans Le Meilleur du Monde ou dans Les Monades Urbaines de Silverberg, tout le monde est prié de coucher avec tout le monde. Et si jamais vous ne couchez pas avec tout le monde, on vous jette par le vide ordure, pour pas qu'il y ait de frustration et donc d'échauffourée ou de révolte due à la limitation sexuelle, à la frustration sexuelle. Et donc ça pose le problème inverse, c'est-à-dire que vous êtes obligé de coucher avec tout le monde et que ça peut, au bout d'un moment, finir par devenir aussi pesant que le droit de ne coucher avec personne. Et ça dilue pas mal le sentiment amoureux, parce qu'on n'a pas le droit à l'exclusivité sexuelle, mais on n'a pas le droit non plus à l'exclusivité affective, qui pose un autre problème. Je ne sais même pas pourquoi j'enlève mes lunettes alors que je ne vois rien du tout. Voilà. Et moi, je me suis demandé ce que je venais faire dans cette table ronde, parce que je suis quand même la femme blanche, cisgenre, hétéro, normée, mariée, mère avec des enfants. Et je me suis souvenue que j'avais écrit quand même un livre de science-fiction qui s'appelle « Outrage et rébellion » qui se passe sur Terre en 2324, et où j'avais carrément abordé ça, mais je n'avais même pas abordé, j'avais décidé que c'était comme ça, tout le monde est bigenré. C'est-à-dire qu'il y a une grande plasticité des corps, et donc tout le monde a une foufoune devant une bite, parce que c'est plus commode. Sachant que tout le monde aussi se débrouille pour naître XY, et si on est XX, pouf, on se fait raser une jambe du X pour être XY. Pourquoi ? Parce que on a plus de biscottos. On est plus grand, on a plus de biscottos, et que dans les batailles de rue, parce que c'est un monde un petit peu violent, c'est très joli d'avoir de beaux seins et de belles hanches, mais dès qu'il y a une bataille, il vaut mieux sortir de sa nuisette des gros biscottos d'hommes. La masculinité, c'est mieux pour survivre, c'est plus efficace en termes de violence. Mais là, du coup, l'ostracisme se déplace sur les multis. Les multis, c'est ceux qui sont littéralement couverts de clitoris des pieds à la tête, puisque vous pouvez vous mettre des clitoris partout, sous les aisselles, derrière les genoux. Bon. Ceux qui se font poser des foufounes un peu partout, dans les cuisses, ceux qui se font greffer une bite sur le front, enfin voilà, c'est multisexuel. Et là, pour être multisexuel, il faut être aussi sévèrement caréné, parce qu'on se fait agresser dans la rue. Et la dernière insulte, justement, c'est andro, c'est-à-dire androgyne, c'est-à-dire multisexuel. Donc l'ostracisme existe toujours, mais se déplace vers un autre groupe d'individus. Donc finalement, l'être humain n'a pas tellement changé, même si maintenant il ressemble à une créature fantasmatique ultime. Voilà, c'est comme ça que j'ai abordé dans Outrage et Rébellion ce type de questions.
Mélanie, vous pouvez parler peut-être du dernier ouvrage que vous venez de sortir, oui, qui est lié à ce fameux blog qu'on peut lire, en fait.
C'est vraiment la définition de ce que je viens de dire. J'étais en train de faire juste un aparté, la réflexion, que j'ai un petit souci avec pas tant l'intitulé, mais que depuis tout à l'heure on parle de pratiques amoureuses et de manière d'être en couple, etc. Et on parle aussi d'identité, ce sont des sujets qui peuvent se rejoindre mais qui sont pas synonymes, et j'ai un peu l'impression que du coup la discussion est tiraillée entre les deux pôles et qu'on parle de deux choses différentes. C'est un peu, c'est intéressant, mais du coup pour moi ça ouvre d'autres questions. Je referme cette parenthèse là, c'était tout ce que j'avais à dire. J'ai un peu expliqué ce que je disais tout à l'heure sur ce biais de blog, le sujet du livre. Je m'être rendu compte qu'écrire sur cette expérience de je fonctionne pas en couple et parce que je ne comprends pas, et à un moment donné il a fallu que ça sorte. J'ai reçu tellement de réactions de personnes qui m'avaient dit que j'avais mis le doigt sur une chose, non seulement sur ce cas de figure existe, mais sur ce que c'est d'être en dehors de la norme. C'est-à-dire que l'expérience d'étrangeté qu'on a de... Quand le monde entier nous dit les choses sont comme ça, et intuitivement, on sent que non, il y a quelque chose qui ne va pas, mais on nous le répète tellement qu'on finit par le croire, et du coup, ça rend complètement dingue. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que moi, ça m'avait aidé d'en parler, que ça avait peut-être un peu aidé d'autres personnes, et que ce que moi j'ai pas trouvé à lire quand j'étais plus jeune et qui m'aurait tellement changé la vie, j'allais peut-être l'écrire, jeter une bouteille d'eau à la mer, et si ça tombe sur les bonnes personnes, voilà. Je peux pas. Après, c'est vraiment sur ça, sur la construction d'une identité autour de ça. Et c'est, du coup, c'est pas tellement sur les relations amoureuses ou autres, c'est plutôt sur comment se construire en dehors de ce schéma-là. Et qu'il soit possible d'ailleurs de tomber amoureuse sans vouloir être en couple, et à quel point c'est difficile à faire comprendre aux autres et tout ça. C'est pour ça que ce sont des sujets qui se touchent, qui tournent les uns autour des autres, et qui c'est un peu compliqué d'aborder les deux l'un à côté de l'autre, ou pas, je sais pas.
Rachel ?
Oui, si, moi je trouve que c'est tout à fait C'est à point nommé ce que vous dites. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, on n'aimait que dans... C'est pour ça que je disais, on n'aimait que dans la vie du couple, ou pour le couple, ou par le couple. Et là, on peut aimer et vivre quand même son individualité. C'est là où les choses sont un peu différentes. Et je dirais que moi, ça, disons, ça me fait deux ou trois commentaires. La première, c'est l'expression, vous savez, quand on dit, qui est tout à fait ambigu, « mon amour ». On s'adresse à quelqu'un et en même temps, ça peut s'entendre de deux façons. C'est « mon amour, ce n'est pas toi que j'aime, mais en fait, c'est moi que j'aime à travers toi ». Si je dis ça, c'est parce qu'on voit bien comment la construction de l'identité, elle se fait à travers les autres qu'on croit, à travers les différentes relations amoureuses de la vie. Sur l'histoire de Internet et de la toile, moi, je suis partagée. Je vous dis, je suis partagée. Il y a comme toutes dans les évolutions, il y a des choses positives et qu'il faut saluer, qu'il faut approuver. C'est une bonne chose. Ce que vous avez dit, Mélanie, je crois que c'est très important parce que le fait de savoir que ça existe, de pouvoir le partager. Et moi, je l'ai vécu à travers de quelques patients qui étaient transsexuels. Et le problème, c'est que... qui ont eu un mal fou aussi à pouvoir le dire parce qu'ils étaient malheureux et donc ils n'ont pu le dire qu'à partir du moment où ça a été davantage dévoilé sur la toile et donc on a pu les aider qu'à ce moment-là. Je pense que là, c'est vrai que c'est un appui considérable. Par contre, là où je pense que ça peut être problématique sur des sujets qui sont fragiles, vulnérables, et ça, c'est pareil, j'en ai connu, c'est pour ça que j'en parle, des jeunes patients qui, finalement, parce qu'ils trouvaient que c'était plus rigolo, se dénudaient assez facilement sur le net et se sont retrouvés dans des histoires pas possibles où on les avait filmés et puis, finalement, ils se sont retrouvés harcelés par rapport à ça. Et je dirais qu'ils ont été un peu abusés par leur naïveté, quoi. Mais le net peut avoir aussi des conséquences regrettable, où on peut aussi confondre une relation virtuelle qui n'est pas une relation pleine et entière avec une relation authentique. Donc, ce que je veux dire, c'est pour le net, bon, il y a du plus, certainement, en termes de communication, d'information, mais au niveau d'une relation authentique, d'une relation d'engagement, d'une relation aussi pour mieux se connaître et pour continuer à progresser dans son identité, le net ne suffira pas.
Mélanie, comment on fait quand on est face à ce qu'on voit dans le côté négatif entre guillemets de l'internet, qu'on voit les insultes, qu'on voit le non-respect, qu'on voit que c'est des questions qui font beaucoup réagir les gens. Et beaucoup de gens réagissent très, ça se voit même autour de nous des fois. Les gens se mettent en colère. On a l'impression que c'est pas si évident que ça d'accepter, de respecter le choix de chaque personne. Et on a des fois l'impression que les gens vont partir d'eux-mêmes. Et vont déjà partir d'eux-mêmes et vont se permettre de donner un jugement de valeur. On a l'impression que c'est pas, on va dire, assumé ou c'est difficile. Même maintenant au XXIe siècle, on a, en tout cas en ce moment, par exemple dans le cas de moi, je suis de banlieue de région parisienne, il y a un nombre d'agressions, notamment homophobes ou autres, qui est hallucinant. En 2018, proche de 2019, on se dit que c'est toujours et encore possible.
Ça, honnêtement, j'ai pas de réflexion globale sur ça et pas peut-être, et c'est vraiment plutôt une intuition. L'impression que quand il y a une avancée sur des sujets que justement on sent qu'en ce moment il y a des choses qui bougent, les gens réfléchissent énormément, réfléchissent même beaucoup. Autour de moi, je vois des gens sur l'emploi des termes, quels sont les bons termes à employer, comment ne pas blesser l'autre personne, toutes ces choses-là, et que souvent, face à une avancée, il y a aussi une crispation très forte, une réaction de rejet d'autant plus forte. Mais c'est vraiment une intuition, je n'ai pas de réflexion très poussée sur ça, en fait. Mais c'est vrai qu'on constate, c'est presque paradoxal, les deux mouvements en même temps.
Catherine Dufour.
Oui, progression, réaction. À partir du moment où nous, on fait un pas, vous pouvez être sûr qu'il y aura une armée de trolls pour essayer de nous renvoyer de pas en arrière, quoi. Mais il ne faut pas céder.
Peut-être on va passer à une séance de questions-réponses. Je me suis dit qu'il y avait pas mal de questions, des questions. On va vous donner un micro, hein. Quelqu'un arrive ? Non ? Quelqu'un devait arriver ? Sinon, vous vous levez. Le micro est là-bas. Voilà, merci. Ah, c'était pour la personne, désolé. Et après, premier ou deuxième ?
On n'entendra pas. Oui, bonjour.
Bonjour.
Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit au début, sur la question de l'autonomisation, l'individualisation. Il me manque une grille de lecture dans ce que vous avez dit qui me semble hyper importante ici.
Ah oui, merci.
En fait, pour moi, l'injonction à l'amour et au couple, c'est un système de contrôle de l'hétéropatriarcat. Et que quand on parle d'autonomisation ou d'individualisation, on parle avant tout de l'autonomisation des femmes face à un système qui les oppresse. Je ne suis pas sûre que les hommes dans le couple aient tout à fait les mêmes enjeux en termes d'autonomie et d'individualité que les femmes. Du coup, moi, ce que je vois dans ce que vous avez décrit comme système, c'est avant tout le résultat des luttes féministes et des processus d'émancipation des femmes. Et là-dessus, par exemple, il y a un ouvrage de Liv Stromsky qui est assez bien documenté, qui s'appelle « Les sentiments du prince Charles », qui parle justement de tout le système coercitif dans les couples hétérosexuels, en tout cas les couples femmes-hommes, et de en quoi ça devient aliénant, enfin ça l'est pour les femmes, et en quoi le processus d'émancipation, d'autonomie, il est avant tout au service des minorités.
Merci. Réaction ?
Oui, non, mais c'est très, très juste, hein, je crois que, bien sûr que c'est très juste, mais je crois quand même, pour le mouvement de l'individualisation de l'autonomie, elle existe aussi dans les couples homosexuels, que ce soit deux femmes ou deux hommes, pour être libres ensemble, où les hommes, bien sûr qu'on sort d'une situation où il y avait une suprématie masculine, une domination masculine, mais cette quête aussi d'autonomie, cette quête d'individualisation, elle prend une autre forme, mais elle existe aussi. C'est ça ce que je veux dire. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, le couple, il y a une évolution dans le couple de la place de chacun, où chacun a une capacité de liberté, d'autonomie, d'individualité qui n'existait pas, on va dire, au siècle dernier, même il y a même 50 ans. Donc, je veux dire, cette évolution, qui est effectivement en grande partie au mouvement féministe, hein, mais a permis aussi à chacun de pouvoir être dans une place différente au sein du couple. Le couple n'est plus une relation close, une relation enfermée, comme j'ai dit. C'est davantage un champ des possibles, un champ d'ouverture où chacun peut s'épanouir au sein du couple, mais aussi en dehors du couple, en fonction d'autres expériences. Je laisse la fin de la phrase.
Des réactions, Catherine et Mélanie, sur la question ? On passe à une autre question ? On passe à une autre question.
Donc, en fait, historiquement, la place centrale de l'amour dans le couple, ça n'a pas toujours existé. On regarde sur le Moyen-Âge, la notion d'amour n'existe pas. Ça va être sur des notions beaucoup plus qui vont être sur l'amitié. Donc déjà, en fait, sur cette question du nouvel art d'aimer, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi penser à décentrer et à avoir des relations qui sont beaucoup plus ouvertes et beaucoup plus épanouissantes dans le sens d'une relation à l'autre qui va être détaché justement de cette exclusivité amoureuse pour avoir quelque chose de beaucoup plus ouvert, de beaucoup plus épanouissant justement comme ça dans une relation multiple. Parce que justement, l'amour n'est pas forcément central, il ne l'a pas toujours été et on peut aussi en sortir.
Alors moi je répondrais exactement comme à la personne précédente que oui, en fait j'ai rien à ajouter, vous avez complètement raison, il y a eu une oui, ça date à partir de 1500, où on a petit à petit enfermé les femmes et par capillarité les hommes dans une espèce de dualité où on ne peut pas sortir et qui est totalement étouffante. J'allais dire sèche et stérile du fait que de toute façon, on est obligé d'en passer par là, donc c'est intolérable. Il n'y a strictement aucune liberté, je suis bien d'accord.
Action, c'est bon ? D'accord aussi, très bien. Oui, alors est-ce qu'on peut avoir le micro, s'il vous plaît ?
C'est une réflexion sous forme de question, mais c'est adressé à vous, monsieur. Parce qu'en fait, je me demande comment s'est réalisée la programmation et sur quels critères ont été liées vos invitations, qui sont que des femmes. Et généralement, on retrouve cette question de l'art d'aimer, portée souvent par des femmes. Je me demande juste comment vous avez décidé d'inviter ces femmes qui sont très très talentueuse et très voilà, mais je me pose souvent la question pourquoi il y a pas d'hommes sur le pupitre à part.
Alors je suis complètement d'accord, moi ça m'énerve. J'ai regardé le programme. Il y a le corps et la politique internationale, j'y suis pas. Il y a le corps et la biomécanisation, j'y suis pas. Il y a le corps et le transhumanisme, j'y suis pas. Moi, je suis dans l'art d'aimer. Je dois avoir le sexe, l'avortement et les bébés. Et c'est systématique.
Alors, pour répondre, hein, en fait, les conférences sont décidées et on m'a proposé d'animer cette conférence-là, mais je n'ai pas eu le choix des intervenantes ou intervenants.
Je suis là en tant que présidente de la cité, donc comme ça, je le ferai remonter. Vous savez que l'autre jour, en plus, je sais, il y a une association Jamais sans elle. Donc un jour, on était comme ça, il y avait que des hommes. Moi, j'étais dans la salle. Ils ont décidé de ne pas faire la table ronde. C'est vrai qu'on aurait pu décider de ne pas faire la table ronde parce qu'il n'y avait pas d'hommes. Je crois que ça aurait été dommage. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je transmettrai ce que vous avez dit parce qu'effectivement, moi, ça m'a frappée. Surtout par rapport à ce qu'on a évoqué, je suis totalement d'accord. C'est-à-dire, les femmes, on va le dire, avec le courant de la place des femmes, l'autonomie des femmes et tout, a modifié beaucoup de choses dans la façon d'être dans un couple et la façon d'aimer et des pratiques sexuelles. C'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas d'hommes, ça nous laisse même nous un peu frustrés, quoi.
Je voulais pas dire ça dans ce sens-là.
Hein.
Non. Je pense que c'est juste des assignations dans des pratiques intellectuelles qui sont encore celles de la SF et qu'on dit que effectivement la SF c'est dégenré ou machin et tout. Non, la preuve, non. Et on est à Nantes dans le plus grand festival de SF, je sais pas quoi, blablabla. C'est ça que je voulais dire. Après qu'il n'y ait pas d'hommes, j'en ai rien à faire en fait.
Oui, oui.
C'est juste.
Non, mais le pire, c'est que c'est mieux qu'avant. Parce que vous seriez venu il y a 10 ans, bon d'accord, vous étiez au collège, mais. Moi, j'y étais pas. J'étais là il y a 10 ans, il y avait 10% d'intervenantes. Il y a même eu une table ronde, science-fiction et femmes. Il n'y avait pas une femme sur la scène. Mm-hmm. Donc, avec mes trois copines, on était au premier rang, on leur jetait des cacahuètes, quoi. Et comme j'ai eu un prix, j'ai eu le droit de monter sur la scène. J'ai pris le micro pour dire, je vous félicite, il y a 10% de femmes comme intervenantes ici. C'est le même pourcentage qu'en Front National. J'ai plus été invitée pendant 5 ans.
Alors, est-ce que je peux intervenir en tant qu'homme ? Je suis Gérard Klein. Je voudrais faire trois remarques qui pourront prendre la forme de questions. La première remarque, c'est que tout ça dépend énormément des sociétés. Si on considère les sociétés de l'Antiquité, il y a de nombreux ouvrages récents et moins récents sur la question. Les choses ne se passent pas du tout de la même manière chez les Grecs, par exemple, et chez les Romains. Et c'est la même chose en ce qui concerne les sociétés actuelles. Ma deuxième remarque serait qu'il y a environ 120 ans, Sigmund Freud a dit, parlant de ses patients homosexuels, qu'il ne les trouvait pas moins honorables ou moins respectables que les autres. Je ne me souviens plus du terme exact, mais enfin le sens était celui-là. Et le troisième point que je voulais évoquer, c'est ma propre expérience. Je vis avec quelqu'un que j'ai fini par épouser, que j'ai rencontré il y a plus de 50 ans. D'ailleurs, soyez dit en passant, j'ai 80 ans et il y a 50 ans, les mariages n'étaient pas vraiment arrangés. Faut pas exagérer. Il y a 100 ans peut-être, mais je n'étais pas né. Donc, nous avons vécu ensemble ou pas ensemble pendant très longtemps. Nous n'habitons pas ensemble. Nous sommes artistes tous les deux, elle dans l'image, moi plutôt dans l'écrit. Nous n'avons jamais habité ensemble, même si nous nous voyons absolument tous les jours, nous téléphonons tous les matins, enfin, etc. Donc c'est un mode de relation. Alors on pourrait dire c'est un mode de relation riche. Ben non, ni l'un ni l'autre, nous ne sommes pas riches. Ça s'est un peu trouvé comme ça, mais ça correspond à nos façons d'exister. Et je me suis aperçu qu'en fait, dans beaucoup de couples d'artistes, cette distinction de l'habitat existait. Peut-être dans bien d'autres populations aussi. Voilà, c'est ce que je voulais faire remarquer.
Merci pour votre remarque. Il y a une question là-bas.
Oui, bonjour. Moi, je voulais revenir sur deux points qui ont été abordés. C'était sur celui de la peur de l'engagement ou par rapport à des blessures ou je ne sais pas quoi. J'imagine qu'il y a des gens pour qui c'est le cas, mais dans mon expérience personnelle et de celle de personnes que je connais, le polyamour, c'est plutôt un amour de l'engagement. C'est plutôt l'idée qu'en fait, on peut s'investir avec plusieurs personnes et répondre à des besoins émotionnels et recevoir des choses de plusieurs personnes, et on peut être des personnes fiables et avoir des relations fortes. Et, pas, et c'est pas du tout craché sur le fait d'avoir des devoirs émotionnels un petit peu quand même, genre non, moi je te dois rien, je suis polyamoureuse, je suis libre. Ben, en tout cas, c'est pas comme ça que je connais le polyamour, ni pour moi, ni pour les autres. Mais un autre truc qui m'avait un petit peu plus, je dirais carrément choquée, c'est la critique des relations sur Internet. Parce que pour beaucoup de personnes qui souffrent d'anxiété et de dépression, ça a été une libération monumentale. Ça a sauvé des gens de dépression, de suicide, de choses vraiment terribles. Des gens qui ne peuvent pas parler, juste aller vers les gens, aller vers les autres. Internet, c'est une porte. C'est pas forcément une fin en soi. Moi, tous mes amis et toutes les personnes avec qui je relationne, je les ai rencontrés sur Internet. Et c'est des personnes dont je suis proche dans la vie réelle. Et je connais plein de gens comme ça autour de moi. Et j'ai eu l'impression, en tout cas, que pour plusieurs personnes sur le panel avaient des opinions différentes sur les relations sur Internet. Et j'aurais bien aimé entendre d'autres opinions là-dessus que celle qui a été abordée, en fait. Voilà.
Merci.
Pour le coup, je suis... Alors, sur la question du polyamour, c'est bien que ça ait été abordé, parce que n'étant pas spécialiste, voilà, C'est bien que cette figure ait été abordée, mais sur Internet, moi, je suis typiquement quelqu'un dont Internet a sauvé la vie à ce niveau, au niveau des relations, oui. Donc pour moi, il y a un avant-après, et j'aurais été une adolescente beaucoup moins solitaire si j'avais pu contacter d'autres personnes qui avaient mes centres d'intérêt via Internet. Donc je signe dès demain pour ça.
Non, mais on est bien d'accord. Comment on faisait avant Internet? Vous vous souvenez pas? Moi, je me souviens, on s'emmerdait, voilà.
Votre question, je crois, c'est ça.
Bonsoir. Bonjour. Je voulais juste rebondir juste un instant parce que je voulais mentionner ça. J'ai été très agacée quand vous avez, dans le même souffle, parlé de relations sur Internet et dit que c'est des relations virtuelles et opposé ça à des relations qui ont du sens. Et franchement, non. Excusez-moi. J'ai des tas d'amis très importants que je vois tous les jours sur Internet. Pareil, j'étais avant d'aller sur Internet, j'étais dépressive. J'ai rencontré mon mari sur Internet, voilà, et relation Internet, relation virtuelle sans importance, ça n'est pas la même chose, c'est pas forcément lié, ça n'a aucun rapport. Par ailleurs, j'avais une question, je ne comprends pas, madame, vous parlez de la souffrance amoureuse, je me demande, est-ce que la souffrance est directement liée à l'amour qu'on ressent pour quelqu'un? Ou est-ce qu'elle vient des contraintes extérieures liées à cet amour, mais qui n'ont pas de rapport direct avec celui-ci? Typiquement, moi, je suis asexuelle. J'ai jamais eu de souffrance amoureuse avant récemment, quand j'ai pris conscience du fait que j'étais asexuelle et que je me suis demandé comment aborder le sujet avec mon mari, avec qui je suis mariée depuis plus de 10 ans et avec qui j'ai un enfant. J'ai commencé à me poser des questions pour ce que ça voulait dire pour nous. Moi, j'ai pas de problème avec ma vie sexuelle. Après, je me demande si les attentes, je ne sais pas quelles sont les attentes, c'est les attentes extérieures, les modèles habituels de l'amour qui font que je me pose des questions et qui provoquent une souffrance. Donc, c'est pas directement l'amour qui me fait souffrir.
Alors, juste pour revenir sur les relations virtuelles et les relations réelles, ce que je voulais dire, je dis ça pour éviter qu'il y ait de malentendus, c'est quand je disais, disons, pour moi, c'était si le virtuel prend toute la place à la place du réel. S'il y a une complémentarité, je pense que vous l'avez bien montré, c'est vrai que les rencontres sur Internet sont très riches, on rencontre des tas de gens qu'on n'aurait jamais rencontrés s'il n'y avait pas la toile, et je partage tout à fait votre avis. Et après, ça débouche sur des relations, des relations avec des objectifs concrets, des éléments concrets. En l'occurrence, vous vous êtes mariés depuis 10 ans, et donc, ce qui est quand même une longue période. C'est tout à fait enrichissant si c'est une porte sur autre chose. Moi, ce que je crains, c'est tout, c'est qu'au niveau de la toile, c'est, des fois, il peut y avoir du répondant, des fois, il peut ne pas y avoir du répondant. Et où des fois, il peut y avoir du répondant qui répond mal ou répond pas en fonction de ce qu'on attend. C'est pour ça que j'ai dit ça tout à l'heure sur le net. C'est pas du tout une condamnation de la toile, pas du tout, puisque c'est un élargissement des possibles. C'est attention de ne pas nous mettre toute son affectivité sur la toile. Et donc, l'exemple que vous avez montré prouve bien qu'il y a d'autres débouchés, et je vous en félicite. Après, sur les contraintes, je crois qu'il n'y a pas de normes. Justement, c'est ce que vous évoquez, ce qui est une norme. Non, au niveau de la sexualité, il n'y a pas de normes. C'est-à-dire, chacun a une vie sexuelle plus ou moins importante avec un ou plusieurs partenaires, avec des partenaires du même sexe ou des partenaires différents. Et je crois que c'est ça qui est compliqué. Et ça, on en prend toute la mesure actuellement en évoquant toutes ces façons de faire différentes. Je crois qu'il n'y a plus un seul modèle, et heureusement, on en prend conscience. Il n'y a plus un seul modèle, il y a différents modèles. Après, effectivement, quand on est dans une relation de couple, il faut que ça soit en phase, il faut qu'il y ait une certaine concordance. Et ça, il faut s'en parler. Il n'y a pas d'autre solution que de s'en parler. Comme vous dites, ben, si vous en souffrez pas assez bien, après, il faut savoir si votre conjoint en souffre ou pas.
Merci beaucoup. Ça va être la fin de cette conférence. Merci beaucoup pour vos questions. Merci à Mélanie Ifazi, Catherine Dufour et Rachel Bauchet.